Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, gros plan sur un objet d'intérêt universel, les seins des femmes. Symbole de maternité, incarnation de la féminité, objet de fantasme. La poitrine est au centre de toutes les attentions, ni trop grosse, ni trop petite, naturelle, cachée, mais pas invisible non plus. Autant d'injonctions qui obsèdent les femmes. Et pourtant, une nouvelle génération de filles, à l'aise dans leur basket, ont décidé de ne plus porter de soutien-gorge. Pour le confort, et pour se réapproprier leur corps. Les moins de 25 ans en France seraient 18% à pratiquer le no-bra, c'est-à-dire pas de soutien-gorge en anglais. Certains crient à la provocation, d'autres parlent d'un détail sans intérêt. Mais qui peut vraiment contrôler son regard devant la partie du corps la plus observée chez les femmes ? Les voisines, on attend bien sûr vos réactions, vos témoignages, que vous soyez bien ou fâché avec vos seins. Et surtout, quel est le regard de la société sur cet attribut féminin, le seul qui différencie vraiment les hommes des femmes, en tout cas pour la partie visible. Vous nous appelez sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités. Gala Avanzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes influenceuse, rédactrice. Vous publiez un livre qui s'appelle « Nos bras, ce que ma poitrine dit de moi » chez Flammarion. On peut vous retrouver aussi sur les comptes hashtag sorcière ta mère, le compte Instagram sorcière ta mère, qui dénonce les injonctions, les injustices subies par les femmes et les minorités de genre. Et puis aussi sur votre compte Instagram Gala AVZ, où vous jouez à cache-cache un peu avec la censure des réseaux sociaux sur le sujet avec des photos assez suggestives. Se montrer sur la plage sans haut de maillot, c'est pas simple. Ça peut être assimilé à de la pornographie. En tout cas, c'est clairement censuré. Bien sûr, on va en reparler. Également avec nous, Bernard Andrieux, philosophe du corps. Vous avez notamment publié « Restez beau ». Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bien sûr, vous nous appelez 33 7 64 45 51 41, énormément de messages nous sont parvenus sur notre compte WhatsApp et sur nos réseaux sociaux. Écoutez tout de suite le message d'une auditrice heureuse, Fatoumata, 20 ans, en Guinée, à Conakry.
Moi, j'adore en fait mes seins. Ils ne sont ni trop grands, ni trop petits. Le juste milieu, en fait. Bon, le plus souvent, mes amis à l'université, elles me disent souvent, Binta, il faut porter des soutiens-gorge un peu bombés pour donner du volume à ta poitrine parce que comme ça, c'est pas joli. Et moi, le plus souvent, je leur dis, non, mais moi, j'en suis fière comme ça, c'est comme ça, je les aime. Je dis, non, j'ai des seins, je pourrais bien allaiter, donc c'est suffisant, j'ai pas besoin des gros seins. Une fois, je marchais avec un ami dans le quartier et là, on est passé devant la cour, il y avait une dame qui était arrêtée. Elle m'a tellement dévisagée que, après, elle a dit en sous-sous, elle a dit, mais elle n'a rien à la poitrine, elle n'a vraiment pas de seins en sous-sous. Parce que moi, je suis peu là, en fait. Donc, en me voyant, les gens s'imaginent que je ne comprends pas une autre langue. Ça m'a un peu choquée, j'en ai ri, mais après, je me suis dit, qu'est-ce que mon ami lui-même va penser, parce que lui-même, il comprenait sous-sous. Du coup, ça m'a fait rire, mais est-ce que j'adore mes seins? Je ne porte pas de soutien-gorge bombé pour donner du volume, non. Je porte juste le juste milieu.
Voilà, une auditrice à l'aise avec sa poitrine. Je vous lis aussi les messages de Rabi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Elle nous dit « J'adore ma poitrine, j'aime mes seins tels qu'ils sont, ni gros, ni petits. J'ai bien vécu l'arrivée de mes seins car ils étaient beaux. Malgré mes deux maternités, ils sont restés beaux et je ne peux que me réjouir. » Salimata est à Chennevières, en France. « J'ai eu une forte poitrine très tôt, à 9 ans. Les enfants m'appelaient Madame Combo. En langue soninké, Combo, ça veut dire les seins. » Mon grand-père, lors d'un voyage à Dakar, m'a acheté des soutiens-gorge à la friperie. Les enfants se moquaient de moi. Puis il y a Hélène aussi, à Douala, au Cameroun. Moi, j'ai juste deux petites clémentines. J'ai mis un soutien-gorge à 27 ans, à l'occasion de ma grossesse, et je l'ai retiré au sevrage de mon enfant quand il a eu 18 mois. Alors, on ne sait pas si aujourd'hui, Hélène n'a toujours pas remis son soutien-gorge ou pas, ou si elle attend la prochaine grossesse. En tout cas, appelez-nous, on a envie de dialoguer avec vous en direct. Gala Avanzi a sûrement des questions à vous poser. 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et tout de suite, écoutez les témoignages de ces adolescentes en France. Elles ont entre 16 et 18 ans et elles ont accepté, difficilement d'ailleurs, il faut le dire, de parler de leur poitrine en toute intimité à notre reporter Charlie Dupio. Inès, Camille et Vicky ont commencé par le moment fatidique où leurs seins ont pointé.
Je me souviens plus vraiment, je dirais peut-être en primaire, genre en CM2.
Moi, je dirais vers la 6e, 5e. 6e, 5e, ouais, 12, 13 ans.
Ça s'est passé de la 6e à la 2e. Genre, c'était hyper long. Au début, tu portes rien, on porte que des t-shirts, on est des enfants, genre, c'est tout plat. Et puis après, genre, tu commences à mettre des brassières, tu sais pas comment faut faire. Moi, j'avais tendance à bander le haut pour faire abstraction et pas y penser parce que j'avais pas envie, quoi.
Bander le haut, c'est-à-dire ?
Soit je mettais des brassières très serrées, soit des brassières de sport pour pas que ça se voit.
Et alors, avant d'avoir de la poitrine, avant de rentrer dans l'adolescence, comment vous imaginiez votre poitrine ?
Quand j'imaginais ça un peu comme dans les animés. C'est les mangas, mais façon comme un dessin animé, mais du coup, c'est japonais. Les filles, elles ont des seins, mais énormes. Vraiment, ils sont... Parce que je regardais beaucoup d'animés et j'imaginais que ça allait être énorme, tout rond, tout parfait, que ça se tenait tout seul et que ça avait globalement tous la même forme. Alors que non, absolument pas.
Au début, quand ta poitrine a commencé à pousser, tu t'es rendu compte qu'elle n'allait pas être comme celle des mangas, ça t'a déçue, frustrée ?
J'étais un peu déçue, c'est vrai. Moi, je voulais qu'elle soit toute parfaite et tout. Mais après, on s'y fait, donc c'est plus dérangeant.
Déjà, elle a commencé à se développer à partir de la fin de 6e, quand toutes les filles dans mon établissement avaient déjà une poitrine développée. Je pense que ça n'a pas aidé non plus les remarques des autres.
Quelles remarques, par exemple ?
T'es plate ou... Planche à pain, genre des trucs bêtes, mais quand tu te vois après de profil dans un reflet, tu te dis « Ah bah oui, en fait, genre, je suis comme ça ». Même sur Instagram, on se compare et là, ça a tendance à être négatif après pour soi-même, du coup.
Est-ce que toi, t'as déjà eu, Inès, des remarques sur ta poitrine aussi
ou... Pareil, planche à pain, ah, t'as pas de forme, oh, une feuille de papier, mais est-ce qu'on a vu Inès ? Enfin, des fois, où est-ce qu'il y a Inès ? Elle n'est pas là, c'est une feuille, on la voit pas. Je suis comme toi, je porte beaucoup de vêtements larges, je pense que ça se voit. Et du coup, cet été, quand je me suis mise en maillot de bain, il y a mes parents qui ont fait une tête. En plus, on était à table, c'était un peu gênant. Ils ont fait une tête et ils ont commencé à rigoler. Et les amis m'ont demandé pourquoi. Ils font « Ah, mais Inès, en fait, t'as des gros seins !» J'étais en mode « Mais arrêtez, c'est gênant, enfin non, mais laissez-moi !» Du coup, j'étais un peu gênée, mal à l'aise. Donc, j'aime pas qu'on parle de mon corps.
Moi, j'ai l'impression que déjà maintenant que, entre guillemets, on a une poitrine, maintenant qu'elle est là, il y a plus de regards des hommes surtout. Et maintenant, il y a le lancement des sans soutifs, etc. En fait, moi, j'en ai toujours porté. C'est au moment du confinement que je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de ne pas en porter sans avoir le jugement des autres. J'ai déjà eu une ou deux remarques de femmes dans la rue. Mais tu t'es pas habillée, t'as oublié un truc. Je suis très bien. En plus, il y a certains t-shirts qui sont faits, entre guillemets, pour que ça soit joli, sans soutien-gorge. Quand je fais pas de soutien-gorge, par exemple, dans les transports, il y a toujours plus de problèmes.
Des fois, j'ai envie de lâcher, tu veux ma photo ? Ah, c'est chiant, ça.
Il y a un t-shirt que je mettais avant dans les transports pour aller à l'école. Maintenant, je le mets plus sans pull, si je peux pas zipper, ou juste si je mets pas de sweat. Parce que parfois, il y a des personnes qui se permettent de frôler l'endroit en mode « Ah, genre, c'est joli ».
Mais ça t'arrive qu'on te touche ?
C'est déjà arrivé une fois qu'on touche et enfin vite fait qu'on pose le doigt, voilà. Moi, je vais pas voir un mec qui porte un t-shirt moulant. Fais attention, tes tétons, ça va exciter les filles. Enfin, on va jamais voir un mec pour lui dire ça.
Genre, moi, je pourrais pas. Je sais pas pourquoi, mais je suis trop habituée à porter des soutifs. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont un plus lourds forcément, mais que même les gens ils vont regarder, que va y avoir la forme qui va être plus prononcée, qui vont pointer, et ça, quand ça pointe, je me mets à paniquer. Genre, même si je suis en maillot de bain à la plage, si ça pointe, je marche comme ça, enfin les poings devant, comme ça on voit pas.
Avec les bras devant.
Ouais, les bras devant où je croise les bras et hop, j'avance comme ça jusqu'à la mer par exemple.
Ouais, moi c'est pareil que toi. Enfin, déjà, moi j'en achète que s'ils sont confortables, c'est genre le critère. Du coup, souvent, je prends sans armature et tout. Puis comme j'ai une petite poitrine, j'ai pas besoin de beaucoup de soutien ni rien. Donc, je suis plus à l'aise quand même quand j'en mets. Et même, je trouve ça plus confortable, limite, de pas en avoir. Ça me gêne un peu, quoi. Franchement, quand j'entends des histoires comme celle de Camille, ça me révolte. Enfin, c'est notre corps. Les gens, ils ont pas leur avis à donner. Et qu'on se passe emmerder parce qu'on n'a pas soutien-gorge, je trouve ça vraiment inadmissible, quoi. J'aimerais juste qu'on nous foute la paix. C'est pas logique, c'est pas normal.
que là, à nous dire « Ah, là, tu portes une brassière. Ah, là, ça fait prostituée. Ah, t'as trop de forme, porte pas ce haut, sinon on va trop voir tes seins. » C'est comme si on nous mettait à part ou que la société nous obligeait à... était dans notre placard, on va dire. Et le matin, on se dit « La société va penser ça, donc je vais porter tel vêtement. »
La société est-elle dans notre placard ? Appelez-nous en tout cas pour réagir à ces témoignages d'adolescentes au 33 7 64 45 51 41. C'est notre compte WhatsApp. Gala Avandi, l'adolescence, évidemment, c'est l'âge de tous les complexes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des remises en cause de l'ordre établi ? Est-ce que les filles sont clairement en train de changer de regard sur ce qui leur appartient, c'est-à-dire leur poitrine ?
Je pense qu'on y vient petit à petit. Après, ça reste un milieu très privilégié, très confidentiel. Mais j'aime espérer que, à croire que c'est en train de changer. Bah déjà, on en parle en fait aujourd'hui, donc c'est déjà une très bonne chose. Après, c'est certainement pas suffisamment répandu.
Ouais. Bernard Andrieux, est-ce qu'il y a des similitudes ou des différences avec la libération sexuelle des années 70 qui accédait à la contraception, au droit à l'avortement et qui balançait symboliquement son soutien-gorge ?
Là, dans le témoignage des adolescentes, c'est assez frappant qu'en fait, il y a beaucoup de contraintes qui s'opposent à elles. Ouais. Donc en fait, il faudrait déjà se libérer de ces contraintes. Et finalement, c'est comme si on était juste avant cette libération des mœurs et aussi des corps. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de révolte quand même. C'est quand même très, très, très révoltant ce qu'elles vivent. Et dans une certaine mesure, on peut penser que le « nos bras », ça va être justement une prise de conscience de la possibilité justement de pouvoir contester ces normes. Donc,
c'est mais pour une libération sexuelle comme à l'époque,
non,
ça serait comme un retour en arrière ou pas du tout?
Non, plutôt pour un respect de l'intégrité, enfin du respect du corps dans sa globalité, c'est-à-dire je suis comme je suis.
Oui, tout à fait.
Vous, le fait que, alors, dans votre livre, hein, clairement, vous expliquez pourquoi pendant 10 ans vous avez porté des soutiens-gorge et pourquoi vous n'en portez plus aujourd'hui.
Oui, alors j'en ai porté parce que c'était la norme, c'était comme ça qu'il fallait faire. À l'époque, moi je l'ai vécu comme un rite de passage, comme elles en parlent dans le reportage. Et puis, donc voilà, en fait, je questionnais absolument pas ce choix. Et puis, cet acte, parce que c'était pas un choix, justement. Et puis, voilà, il y a quelques années, j'ai décidé de... Je suis tombée, en fait, sur une vidéo qui expliquait qu'on pouvait retirer son soutien-gorge. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais jamais questionné le fait de porter ou non, de ne pas porter de soutien-gorge, en fait. Donc voilà, j'ai commencé à ne plus en porter comme ça. Et puis,
aujourd'hui, le fait de ne pas en porter, c'est perçu, en tout cas par les hommes, voire aussi par les femmes, comme une provocation sexuelle.
Ça peut, effectivement, ça peut être perçu comme tel. Ça ne devrait pas, hein, est... voilà, mais c'est perçu comme tel. Alors moi, je n'ai jamais eu de problème. Je pense que je suis très privilégiée à ce niveau-là. Je n'ai jamais eu de soucis, comme la jeune fille le racontait dans le reportage. C'est scandaleux qu'on ose toucher son corps, qu'on ose faire des réflexions aux femmes. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a de nombreuses femmes qui n'osent pas ne pas porter de soutien-gorge parce qu'elles ont peur des représailles, en fait.
Oui, l'idée, c'est peut-être aussi que, comme elles disent, quand le sein, c'est un organe vivant, hein, c'est-à-dire qui va réagir à la chaleur, au courant, etc., et aussi qui va exprimer, quand elle dit les seins vont pointer, etc., c'est-à-dire qui exprime aussi une vie émotionnelle, en tout cas une vie interne de la personne. Et donc, finalement, le fait d'avoir conservé le soutien-gorge comme une mode de protection, en tout cas, de ne pas montrer aussi cette vie intérieure. Hein, c'est comme si nous, les hommes, on ne met pas de slip et finalement, on va être en érection, comme ça, enfin, libre, etc. Donc, dans une certaine mesure, il y a toujours cette idée que le sous-vêtement, c'est quelque chose qui doit cacher
l'organe vivant susceptible de vivre,
parce qu'il est vivant.
Ouais, oui. L'organe vivant susceptible de se modifier. Et pour cause, d'ailleurs, vous parlez pendant de longues pages, Gala Avandi, du téton.
Le téton, oui, qui est le symbole de l'hypocrisie, selon moi, parce que c'est exactement le même chez l'homme ou chez la femme. Mais chez la femme, c'est impossible de le voir. On n'ira jamais... dire d'un homme qu'il est vulgaire parce qu'on voit ses tétons à travers son t-shirt. Alors qu'une femme, elle est perçue comme étant... c'est très négatif. L'image qu'elle renvoie sera très, très négative.
Depuis toujours, d'ailleurs.
Oui, depuis toujours, on a caché, hein, comme vous le dites, ouais, très bien dans le livre, on l'a caché, y compris dans l'histoire de l'art. Hein. On se souvient de tableaux où on montrait pour la première fois un téton d'une femme. Et ça avait scandalisé parce que finalement, on montrait la poitrine. C'est-à-dire on fait la différence entre la poitrine et l'extrémité du sein, parce que bien sûr le téton est aussi symbolique de quelque chose d'autre pour la femme. Hein, c'est-à-dire que ça l'assigne aussi à un rôle finalement
nourricier,
que la société,
l'allaitement,
voilà, nourricier symbolique
désir, hein,
auquel elle serait assignée.
Tout à fait. Tout à fait, oui.
D'ailleurs, vous soulignez bien que les poupées Barbie, les mannequins en plastique des magazines ne sont jamais représentés avec un téton au
mais
bout
des seins. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, le soutien-gorge, quand on y pense, et même les décolletés, on peut voir la poitrine, il n'y a aucun souci, mais la limite, c'est le téton. Le téton, on ne le montrera jamais.
Alors le téton, c'est la fonction nourricière, c'est l'allaitement, et puis c'est toutes les injonctions paradoxales autour de ça. L'allaitement est fortement privilégié, il y a une forte pression pour que les femmes allaitent pour des raisons de santé, mais il y a aussi tout un monde de pudeur autour de l'allaitement, en tout cas dans les sociétés développées.
Mais bien sûr, et donc c'est très compliqué pour les femmes d'allaiter en public. Parce que, donc, il faut, pour être une bonne mère, il faut absolument allaiter. C'est pas une idée que je partage, hein, bien sûr. Mais il faut pas allaiter en public non plus. Parce que là, cet été, il y a une femme qui s'est fait gifler, qu'une autre femme a giflé à Bordeaux, je crois, parce qu'elle était en train d'allaiter son enfant dans une file d'attente pour la poste, je crois. Et elle lui a expliqué, elle lui a hurlé dessus en lui disant qu'elle n'avait pas à faire ça, que c'était pas une bonne mère, qu'elle aurait dû le faire avant, je crois, qu'elle aurait dû le faire autrement, quoi. Ce qui m'a un peu touchée, c'est que la femme qui a été giflée expliquait que elle expliquait que en plus on voyait rien, on voyait pas ses seins, et moi j'ai envie de dire mais en fait même si on les voyait, c'est pas grave en fait. Il faut arrêter d'en faire toute une histoire. C'est pas censé être grave.
On peut peut-être penser que justement le problème, c'est que dans la construction sociale du sein de la femme, il y a une sorte de degré de pudeur.
Oui. Hein,
c'est-à-dire que finalement, il y avait toujours cette partie, on va dire.
Alors le haut de la poitrine.
Le haut de la poitrine, voilà. Le haut de la poitrine.
Jusque-là, tout va bien.
Voilà, tout va bien. Hein, après, effectivement, avec le maillot de bain, avec le soutien-gorge, on voit finalement que on peut montrer une partie des seins, l'échancrure, hein, qui va d'ailleurs poser la question du volume. Et puis, il y a une troisième partie qui est effectivement le téton, qui lui est complètement invisibilisé, y compris dans les soutiens-gorge qui sont vendus. C'est-à-dire que c'est une dimension qui est réservée, on va dire, à la sexualité, en tout cas à un espace totalement privé.
Oui, tout
ce qui explique aussi les réactions des gens.
Et même en au bras, moi quand j'ai commencé à arrêter de porter des soutiens-gorge, en fait je me suis rendu compte qu'ils vendaient dans les magasins de lingerie ce qu'on appelle des pétales. En fait,
exactement,
c'est des petits morceaux en silicone que vous collez en fait sur votre téton pour pas
aplatir le téton.
Ouais.
Et donc finalement vous ne portez pas de soutien-gorge, mais tout va bien puisqu'on ne voit pas votre téton.
Exactement.
C'est ça. Vous dénoncez le fait que les seins servent la sexualité des hommes, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que tous les sexologues vous diront que la poitrine, et c'est d'ailleurs pas pour ça, c'est pour ça que c'est pas une zone du corps comme une autre, c'est que c'est une zone extrêmement érogène pour les femmes.
Oui, comme les oreilles, comme d'autres parties du corps peuvent l'être. Après, en fait, moi, ce que je dénonce, c'est pas tant le problème, c'est pas que la poitrine. En fait, si une femme veut sexualiser sa poitrine, elle en a bien le droit. En fait, c'est ça, moi, que je veux. Je veux redonner le contrôle, en fait, aux femmes de leur propre corps. Donc, si une femme veut sexualiser sa poitrine, mais bien sûr, évidemment, qu'elle le fasse. Mais si elle décide de pas le faire, elle en a le droit aussi, en fait.
Ouais. Alors bon, vous, évidemment, vous revendiquez le fait de ne pas porter de soutien-gorge pour le confort, mais aussi pour la reprise du contrôle sur votre propre corps. Il y a une démarche qui est très individuelle, d'ailleurs. Vous n'êtes pas tellement dans un combat collectif, finalement, contrairement aux féministes des années 70.
Alors, oui et non, parce que... un petit peu quand même, parce qu'en fait, moi, le but, c'est pas... je veux rien imposer à personne, en fait. C'est vraiment mon propos. C'est que je ne veux absolument rien imposer à personne. En revanche, là où je me bats collectivement pour que chaque femme puisse avoir le choix. de faire ce qu'elle veut et de, voilà, que chaque femme puisse avoir le contrôle de son corps.
Mais est-ce que vraiment chaque femme a le choix? Parce que vous, on va le révéler puisqu'on est à la radio, mais vous le dites dans votre livre, vous avez une petite poitrine. Vous vous habillez d'ailleurs en conséquence. Hein, vous portez un pull un petit peu ample et vous portez une espèce de foulard et de châle qui masque un peu le torse aussi.
Alors c'est très exceptionnel. C'est parce qu'il fait froid aujourd'hui.
C'est vrai que sur votre compte Instagram, il y a des photos beaucoup plus dénudées.
Ah oui, alors par contre, voilà, je me fiche de porter des vêtements où on voit mes seins à travers, c'est pas du tout un problème. Là, c'est très très exceptionnel. Ouais.
Mais tout de même, est-ce que c'est à la portée de tout le monde?
Non, bien sûr que non. Et justement, en fait, ce que je veux partager dans mon livre, c'est que en fait, il faut arrêter de généraliser et que on n'est pas toutes logées à la même enseigne. Donc voilà, moi j'ai ce privilège entre guillemets d'avoir une petite poitrine, qui rentre dans les cases pour faire du no bra, c'est plus facile pour moi parce qu'effectivement, ça va moins attirer le regard. Donc ça c'est certain. En revanche, ce que j'ai voulu partager aussi, c'est du coup, j'ai donné la parole aux personnes concernées, aux personnes qui ont des poitrines opulentes. Et donc, il y a des témoignages dans le livre de ces personnes-là. Donc en fait, c'est possible de le faire. Il y en a qui le font. Maintenant, on est libre en fait de faire ce qu'on veut.
Bernard Andrieux.
Oui, justement, cette question du poids, c'est cette question aussi du vécu personnel, en fait, par rapport au fait que quand on libère le sein et qu'il n'est plus supporté, il y a un certain poids qui va exister.
Qui peut être jugé, d'ailleurs, très inconfortable pour
la personne. Et qui aussi pose le problème de qu'est-ce que c'est qu'une silhouette. Hein, c'est-à-dire que est-ce que la silhouette c'est quelque chose qui se fait à partir de la taille ou est-ce que c'est une silhouette qui va se faire à partir des seins? Et donc c'est vrai que la survalorisation de la silhouette à partir des seins fait que on a le sentiment que si les seins tombent, en tout cas ont un poids naturel, on va perdre quelque chose d'esthétique, ce qui est totalement faux bien évidemment, puisque on voit dans les pratiques naturistes que au contraire c'est quelque chose qui est totalement intégré. C'est le corps dans son ensemble et pas du tout cette partie-là du corps.
Oui, c'est-à-dire que vous travaillez pas mal sur le mouvement naturiste. Et effectivement, dans la mesure où on voit aussi le reste, la poitrine devient moins le centre de toutes les attentions.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'entrée dans le corps. Le problème de la nudité du sein quand on n'est pas naturiste, c'est qu'en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure très bien, c'est que beaucoup d'hommes, sans doute aussi des femmes, hein, puisque il y a aussi des femmes qui regardent le sein des femmes. Donc c'est une entrée, sur le corps. Et donc, dans une certaine mesure, on va essayer de prendre le contrôle de ça.
Allez, vous nous appelez pour nous parler de votre relation à votre poitrine, le regard de la société aussi sur votre poitrine. Je lirai aussi des messages de voisins, bien sûr, qui ont la parole aussi. Les voisines et les voisins, vous nous téléphonez au 33 7 64 45 51. 41, c'est le compte WhatsApp. On se retrouve juste après cette respiration Afrobeat. Flying the killer, we go cool my mind. I won't do anything I want tonight. Make we do anything we want tonight. Turn up your body, make you feel alright. Flying the killer, we go cool my mind. I won't do anything I want tonight. Make you do anything we want. Say I go take, we go take, 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 Oyak pe 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 pe, ragote. She done de pe tak pe pe. Oyak pe, oyak pe pe pe.
She like it fast, slowly. Sometimes she dey confuse me. Me never leave her lonely. Me never leave her lonely. And I dey turn up when she need me. She like ojoro mijo. She say she no want no man, baby. So I give her what you need. Turn up your body, make you feel alright. Flying the killer, we go cool my mind. I won't do anything I want tonight. Make we do anything we want tonight. Turn up your body, make you feel alright. Flying the killer, we go cool my mind. I won't do anything I want tonight. Make we do anything we want. Say I go take, we go take, 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 take. Oh yeah, take, oh yeah, take, 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 take. I go take, and I go take, 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 take. I rotate, oh yeah, take, 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 take. I rotate, till I go take, 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 take. Oh yeah, take.
Yeah, she does the boss melody. She got it in where they make a man sing. And I know they leave, she know they leave. And
she dey call me Mr. Romantic. Yeah. And for the act, she dey bend on her knees. Yeah. Before the loving, I dey give, she never see. Yeah. Have you to love you tonight, or have you love you for life? Cause she dey turn on my mind. She say she dey for only me, oh. She say she like Dojo Rubi, oh. She say she no want no man, oh. For me, so I dey give her what she say. Say I go take, I go take, 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 oh yeah, don't yank me, take, 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 I go take.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI et on parle de la poitrine des femmes avec nos invités, Gala Avanzi qui publie Nos bras. Gala, vous avez 30 ans ?
31 ans.
31, pardon. Et vous représentez un peu cette nouvelle génération de filles qui revendiquent de ne plus porter de soutien-gorge. Hein, le bra, en anglais, c'est le soutien-gorge. Et évidemment, ça donne lieu à toute une réflexion sur ce que dit la poitrine de nous, du regard de la société aussi sur les femmes et la façon de les corseter, de les enfermer aussi dans certaines représentations. On est également avec vous, Bernard Andrieux, philosophe du corps. Vous nous parliez d'ailleurs du mouvement naturiste qui vous permet de pas mal analyser aussi comment on peut se décentrer de la poitrine, notamment dans les milieux naturistes, où quand on montre tout et qu'on montre le sexe, bah, effectivement...
Oui, en plus, il y a une harmonie de couleurs, hein, puisque souvent les gens sont extrêmement bronzés, et c'est vrai que la question des seins et des autres parties fait qu'on va les protéger, on va les laisser blancs.
Notamment à la plage,
notamment hein, à la plage
où aujourd'hui on remarque qu'il y a un grand retour depuis par rapport à il y a une vingtaine d'années de filles qui portent un haut de maillot, alors qu'il y a une vingtaine d'années c'était très courant, en tout cas sur les plages du sud de la France, hein, pas partout, mais oui. Sur les plages du sud de la France où les filles ne portaient pas de haut de maillot et c'était pas d'ailleurs sexualisé du tout.
Non.
Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On accueille Christelle qui est en Côte d'Ivoire à Abidjan. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, Christelle. Vous nous appelez pour nous parler d'une pratique qui n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, la pratique du bandage des seins.
Oui, c'est quelque chose qui se fait, ou qui se faisait en tout cas, qu'on a vu nos mamans faire.
Ouais.
Il s'agit de coincer un peu le développement des seins pour les jeunes filles qui rentrent en puberté. Mmh. Et donc, vous les avez, généralement, c'est une pratique qui est faite sur celles qui sont pubères trop tôt. Mmh. Donc, généralement, dans la position d'école primaire, vous avez une pratique de bandage,
donc
ou de petites tapes.
C'est pour protéger du regard des garçons, finalement, et des agressions sexuelles possibles quand on est encore à l'école primaire.
Pas forcément orienté garçon, mais parce que vous avez une petite fille, par exemple, en classe de CE2, qui commence à développer une poitrine de façon rapide, alors que vous avez toutes ces copines de classe qui sont à un niveau où les poitrines sont complètement plates.
Ouais.
Donc, pour qu'elle arrive, en fait, à un certain niveau scolaire, où elle est en harmonie avec son environnement, donc vous avez quelquefois les mamans qui bandaient pour retarder le développement des seins, ou bien une pratique de bandage ou bien de tapotage de la poitrine qui est faite de façon comme une prescription médicale, qui est faite de façon régulière pour que les seins ne sortent pas trop vite.
Mmh. Et ça
dépend de la corpulence.
Et ça a été votre... votre cas à vous, Christelle ?
Moi, pas directement, parce que moi, je suis pas de forme très développée, on va dire. Mais comme on a vu faire, et que quand on est petite fille, quelquefois, on sent que la poitrine commence à sortir, on se gêne. De façon, nous-mêmes, on s'amusait à se bander les seins entre sœurs, voilà, tout simplement. Mais ce n'était pas une exigence, parce que dans la famille, on ne sent pas naturellement forte. Mmh. Mais c'est des choses qu'on a vu faire à côté, chez les voisines, voilà, chez des amis ou au niveau des tantes, voilà, pour des cousines qui étaient vraiment trop fortes.
Avec des serviettes chaudes et humides, hein, c'est ce que vous avez dit au standard.
Oui, les serviettes chaudes. C'est une gestuelle de tapotage, en fait, avec les serviettes, ou bien avec des bandes bien serrées en dessous des vêtements. Ouais. Voilà.
Ce qui n'empêche évidemment en aucun cas la croissance de la poitrine, il faut bien le rappeler. Il y a aussi des pratiques comme ça, plus violentes, ce qu'on appelle le repassage des seins au Cameroun avec des fers chauds et qui peuvent aboutir à des brûlures graves. Merci Christelle d'avoir été en ligne avec nous. Ami souhaite aussi s'exprimer. Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Bonjour Ami, soyez la bienvenue.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisines, bonjour les voisins, je suis Ami de la Côte d'Ivoire.
Oui, alors vous avez dit au standard, Ami, que vous ne portez pas de soutien-gorge.
Non, je ne porte pas de soutien-gorge parce que j'aime pas, ça me fait chaud. Mm-hmm. Ça me donne chaud sous les seins, au fait.
Oui. Et les autres le remarquent ou pas?
Oh, moi, je vais vous dire que c'est les femmes qui remarquent plus même les seins, qui font plus attention aux seins. Moi, je n'en portais pas et du coup, quand j'ai été mutée à un nouveau service, il y a une dame, une de mes collègues qui arrive à mon bureau un jour comme ça et pas qu'elle me parlait directement, elle s'adressait à une autre collègue du bureau, mais les deux ont engagé la conversation à mon encontre. Il y a une qui balance comme ça sans dire mon nom. Elle ne porte pas de soutien. Est-ce qu'elle porte culotte même?
Elle porte du pas coup, de soutien-gorge. Est-ce que même elle porte une
dans mon coin.
Ouais. Est-ce que même elle porte une culotte si elle porte pas de soutien-gorge?
C'était. Si elle porte pas de soutien, est-ce qu'elle porte culotte même?
Ouais.
Moi, plus jeune, je venais d'arriver et c'est là que j'ai compris que dans mon dos, beaucoup de choses se disaient quoi. Voilà.
Sous-entendu, vous n'êtes pas une fille bien, Ami.
Je pense que généralement. Les personnes d'un certain âge, quand elles voient, elles remarquent que vous ne portez pas de soutien. Bon, elles peuvent faire une certaine relation à une femme un peu plus légère. Mmh. Voilà, très souvent, c'est l'idée qu'on a d'une femme qui ne porte pas de soutien. Mais je vais vous dire aussi, quand ça vient d'une femme âgée, souvent, il y a un brin de jalousie, hein, un brin d'envie, un brin de jalousie, parce que les seins, quand ça tient bien, les autres femmes, elles remarquent. C'est pas seulement que les hommes qui remarquent, hein. Donc, quand elles le font sous forme de dénigrement, il y a un brin de jalousie forcément, un brin d'envie, voilà.
Oui, bienvenue dans le monde très, très bienveillant des femmes. Merci en tout cas, Ami, de nous avoir appelés. Gala Avanzi, Bernard Andrieux, une réaction. Elle évoque d'ailleurs la question de l'âge, mais normalement, on pourrait se dire qu'à partir d'un certain âge, justement... Puisqu'on est moins l'objet de fantasmes sexuels, le fait de...
Oui, mais elle explique très bien qu'il y a une rivalité entre les femmes. À partir du moment où on atteint un certain âge, peut-être des fois après la maternité, de continuer à comparer finalement si on a... Si, est-ce qu'on a vraiment des seins de mère et dans ce cas-là, voilà, ils sont tombants et on assume finalement ça. Ou est-ce qu'on continue à être peut-être une possible rivale parce que justement, on continue à rentrer dans des canons de beauté, finalement, qui restent même incorporés, hein, finalement, dans les jugements. On voit très bien ce que dit cette dame par rapport à ses collègues.
Quel que soit l'âge.
Mais c'est très compliqué, en fait, parce qu'on est tout le temps mis en compétition, les unes avec les autres. Et c'est difficile de s'en sortir. Et c'est vrai que ce témoignage... On se rend compte que ben, déjà, on subit quand même des injonctions de toutes parts. On est tout le temps renvoyé, effectivement, à cet objet de désir. Et en plus, voilà, entre nous, on a tellement intériorisé tout ça qu'effectivement, entre nous, on va s'insulter. Et c'est dramatique. Et c'est vraiment ce que j'essaie de...
Mais vous, sur les réseaux sociaux, comment ça réagit, par exemple ?
De la part des autres ?
Pour vous, oui.
Alors moi, pour moi...
Votre démarche de nos bras.
Alors, ça dépend de la part de qui. Donc, du réseau social en lui-même, d'Instagram, par exemple, bah, il ne m'aime pas, très clairement. Il me censure à tout va. Donc ça, voilà, c'est une chose. Parce que...
Qu'est-ce qui est censuré, exactement?
Alors, moi, je ne montre pas de tétons. Hein, je montre que des photos de moi de dos à la plage. Voilà, où, enfin, je ne montre absolument rien. Mais on voit que j'ai pas de haut. Et donc ça, en fait, c'est surtout le hashtag. Il faut savoir que le hashtag, le mot-clé « nos bras » est censuré depuis plus d'un an hein, sur le réseau social. Voilà, ça fait plus d'un an. Donc pour faire la promo du livre, je ne vous explique pas le bazar. Et puis, et voilà, en fait, ça dérange quand une femme parle d'émancipation, quand une femme essaie de reprendre le contrôle de son corps. Oui, ça dérange.
Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On accueille Christiane qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Christiane.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Christiane, soyez la bienvenue, Christiane. Christiane, vous êtes téléconseillère et vous avez dit au Standard que vous avez une forte poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Ça veut dire que c'est la chose qu'on m'aperçoit le plus sur moi.
Oui.
D'accord. Quand je sors ou quand quelqu'un me rencontre pour une première fois et tout, c'est vraiment aussi ça qui le focus. Voilà.
C'est ça, vous sentez immédiatement le regard de la personne sur votre poitrine.
Oh oui, c'est cela. En face de moi, la personne ne peut pas tout de suite s'exprimer, dire « waouh, wow, quelle poitrine » et tout. Mais à peine, je me passe, la personne t'entend derrière. « Ah non, mais la fille, elle a trop de seins. » Ou bien « mais c'est quoi ça ?» Franchement, c'est des critiques et c'est des exclamations en tout cas.
Oui. Et en même temps, vous êtes quand même sur un continent où la forte poitrine est très valorisée quand même.
Oui, elle est valorisée, c'est vrai, mais aujourd'hui, avec cette poitrine, on ne peut pas porter n'importe quel vêtement. Parce que ça donne l'impression que c'est vulgaire, c'est provocateur. Pourtant, la personne a juste envie de se mettre à l'aise.
Ça, d'accord. Oui, tout à fait. Quand vous dites provocation, ça veut dire que dans ces cas-là, cette partie-là de votre corps, elle envoie un message sexuel aux autres, ce qui n'est pas du tout votre intention.
Exactement. On a juste envie de s'habiller, comme on va dire, toute autre personne qui n'a pas forcément la même poitrine, mais envie de se mettre à l'aise, quoi, à son aise. Mais ça laisse toujours des interprétations. Et encore, moi, je ne suis pas grosse, je suis mince. C'est la poitrine qu'on voit, qui est plus en évidence. Du coup, à peine on me voit, c'est que ça, en fait.
Est-ce que ça perturbe vos relations avec les hommes?
Je dirais pas
vos relations sentimentales.
Non, je dirais pas que ça perturbe pas. Au contraire, en âge, c'est la première des choses, en fait, qui plaît chez moi, c'est ce que les gens disent.
D'accord.
C'est la première des choses qui plaît. Ça perturbe pas, mais par contre, il y en a qui ont des tendances perverses. Il faut que j'envoie une photo de la poitrine et tout. Donc, du coup, quand je commence à voir si c'est ton esprit, j'arrête de causer avec toi.
D'accord. Voilà. Ça, c'est quand vous draguez sur les réseaux sociaux. Bon, merci beaucoup, Christiane, de nous avoir appelé. Tiens, je vais lire le message d'Oumarou à Niamey, au Niger, qui dit « Moi, je raffole des seins fermes et pointus. C'est ce qui fait défaut chez ma fiancée. Tout me plaît chez elle, mais elle n'a pas de jolis seins. Parfois, je pense à arrêter la relation. » À cause de ça. Et puis, je vais vous lire aussi un autre message de Mamadou. À Cotonou, au Bénin, les seins des femmes appartiennent d'abord aux partenaires, puis à ses nourrissons. Ou encore Sarifou, qui est à Labé, dans le nord de la Guinée. Les femmes doivent accepter leurs seins tels qu'ils sont, car c'est la volonté de Dieu. Moi, j'aime beaucoup les femmes qui ont des gros seins.
Oui. Alors, moi, sur le fait des seins qui appartiennent aux partenaires et aux nourrissons, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, évidemment. Et en fait, c'est tout le problème de notre société, en fait. C'est qu'à aucun moment, le sein n'appartient aux femmes. Et même, vous voyez, aujourd'hui, en fait, il est vraiment associé au désir masculin, aux enfants, à l'allaitement et à la mort. On est en plein octobre rose, d'ailleurs. Donc voilà. Et en fait, à aucun moment, le sein n'appartient aux femmes.
En fait, c'est très intéressant ce que disait cette dame. C'est qu'il semble que si on a une morphologie entre guillemets standard, il y a un problème. Il ne faut pas que le volume du sein il sorte de la ligne finalement classique du corps. Et donc finalement, il y aurait une sorte de c'est tout l'enjeu de la morphologie. C'est-à-dire que finalement, quand elle dit « trop de seins » ou « forte poitrine », on voit très bien que le problème, c'est l'écart. Parce qu'il y a aussi des personnes obèses, des femmes obèses. On voit d'ailleurs une très belle campagne en ce moment sur les murs de publicité de RER.
Et vous savez, moi j'avais déjà vu des critiques qui disaient « Non mais de toute façon, quand on est grosse, les gros seins, ça compte pas. »
Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est le problème de l'écart entre un corps, entre guillemets, mince et puis des seins gros. C'est une sorte de... C'est ça qui construit le fantasme finalement.
Oui, tout à fait.
Vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Je voudrais qu'on écoute la réaction d'un voisin, Stéphane, à Ouagadougou.
Bonjour, votre sujet m'interpelle particulièrement parce qu'il y a à peine 2 jours, j'ai fait la rencontre d'une demoiselle On était dans un espace public et je me suis rendu compte que non seulement elle ne portait pas de soutien-gorge, mais en plus elle semblait ne pas avoir de poitrine du tout. Et quand elle a remarqué que j'étais en train d'observer, elle m'a dit « Voilà, je viens de me remettre d'un cancer, on a dû me faire une ablation des seins. » Sur le coup, je lui ai dit « Ah, mais vraiment, je suis désolé de l'apprendre. » Elle m'a dit « Non, non, c'était une vraie leçon de vie pour moi et j'ai décidé de ne pas cacher la chose pour pouvoir sensibiliser les gens sur la question. » Du coup, ça a vraiment changé ma perspective parce que je me disais « Ah, mais elle n'a pas de poitrine, comment ça se fait et tout ?» Et puis là, j'ai vraiment reçu une leçon d'humilité et puis surtout de force et de courage. Je vais juste lui dire qu'elle sera un modèle pour beaucoup de gens parce que ça demande beaucoup d'abnégation de donner son histoire comme ça en public et surtout de tenir tête au regard des gens. Vraiment bravo à elle et bonne continuation à vous. Merci.
Voilà, merci à Stéphane de Ouagadougou, Burkina, pour ce bel hommage à cette femme rencontrée il y a peu. On est en France en plein mois d'octobre rose, d'ailleurs, pour la prévention du cancer du sein. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui sera retrouvé chez Priorité Santé le 26 octobre prochain. La question de l'ablation du sein, de la reconstruction du sein, c'est aussi un sujet que vous évoquez dans votre livre, Gala Avandi.
Oui, tout à fait. Je partage. Donc, moi, je suis pas concernée, donc j'ai donné la parole aux personnes concernées. Et effectivement, je me suis rendu compte que, par exemple, une des personnes qui témoigne explique qu'elle a le gène, alors je ne sais plus comment il s'appelle exactement, donc qui fait que voilà, elle peut avoir plus fort risque d'avoir un cancer. Et donc, elle a demandé à subir des ablations et ça lui a été refusé à deux reprises, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en fait, on est même plus du coup sur des questions que des questions d'esthétique, mais aussi de santé. Et donc, cette femme a eu, je crois, deux cancers et enfin, ça a été accepté qu'elle puisse subir une ablation. Et donc, voilà, on refuse aux femmes de retirer leur sein. Parce que c'est pas suffisamment esthétique.
Oui, alors vous évoquez aussi la pression des chirurgiens à opter très vite après pour la reconstruction. En réalité, c'est aussi une demande évidente des femmes qui veulent retrouver leur poitrine. Et ça fait partie quand même énormément du traumatisme du cancer du sein, de se retrouver, lorsque c'est le cas, hein, ça n'est pas toujours le cas, mais de se retrouver sans poitrine ou avec un sein qui manque,
Bernard
Rodrigue.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de mythe de l'Amazone, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on accepterait l'ablation à partir du moment où on rentrerait une sorte de femme mythique qui serait l'Amazone, mais avec des ablations volontaires. Mais finalement, la question de... on le voit dans un site qui s'appelle 12%, qui s'occupe de femmes qui se font photographier avant l'opération et qui veulent avoir une image, en fait, de leur corps avant l'ablation. Et donc, on voit que, sans doute, il y a un problème entre, d'un côté, la conservation, comme vous dites, de cette image antérieure, la nouvelle image du corps, qui est difficilement déjà acceptable. Alors après, il y a des femmes qui revendiquent, hein, qui font des calendriers avec l'ablation. Et puis, il y a tout ce problème qu'on avait retrouvé à la greffe du visage, c'est-à-dire le fait qu'on va reconstruire un sein, mais qui va sans doute redonner une forme, mais qui n'est plus tout à fait le sein originel. Hein, et donc, on est devant un conflit entre trois types d'images du corps, qui vient perturber très souvent et qui fait qu'il y a des gens qui vont décider de ne pas se faire reconstruire parce qu'ils sont militants et qui vont dire on assume et qui vont montrer au contraire, qui vont mettre des tatouages. Vous voyez, ils vont ressouligner l'ablation en mettant un tatouage pour indiquer une reconstruction symbolique.
Gala Avandi, vous revendiquez le no bra. Vous avez écrit près de 200 pages, hein, sur le sur le sujet, en tout cas plus largement autour de la poitrine. Mais est-ce que dans le fond, c'est un sujet si passionnant que cela, finalement, ce choix individuel?
J'aurais pas écrit 200 pages si je pensais pas. Oui, parce qu'en fait, ça va vraiment toucher à quelque chose de beaucoup plus large que ça, qui est le contrôle du corps des femmes. Et c'est vraiment une volonté de s'émanciper de tout ça, des carcans, des dictats de beauté qui sont aujourd'hui complètement... Enfin, qu'il l'était déjà avant, complètement.
Vous pensez que le soutien-gorge réellement va disparaître? On annonce par exemple la disparition de la cravate pour les hommes. Est-ce que Bernard Andriot en porte une aujourd'hui? C'est quelque chose qui, d'ici peut-être une dizaine d'années, pourrait complètement disparaître?
Je pense pas. Après, c'est pas, en fait, moi, c'est pas tant ça le sujet, en fait. Le but, c'est pas qu'ils disparaissent. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est de choisir si oui ou non on veut en porter ou pas. Je pense pas qu'ils disparaissent.
Je pense que le livre de Gala s'inscrit dans une sorte de mouvement que moi, on étudie avec les collègues depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire le retour au naturel. Hein, c'est-à-dire que ce qui se passe avec l'intérisme, avec la nudité, je pense à des magazines comme Paulette, par exemple, qui fait un gros travail de proposer d'autres images. Hein, et finalement, ça veut dire qu'en fait, la nudité naturelle, sans contrainte, c'est un combat. C'est une libération collective. C'est-à-dire qu'on a une nudité artificielle, construite, érotisée, commerçante, marchande, etc. Et puis, de l'autre côté, il y a un courant écologique naturel, dont je crois le livre de Gala témoigne.
C'est ce que j'allais dire, vous êtes complètement en phase avec le réchauffement climatique et la lutte contre le changement climatique. Plutôt, non ?
Oui. Oui, oui, tout à fait.
Avec une revendication d'un corps désérotisé ?
Si on le souhaite. En fait, c'est ça, tout le propos du livre, c'est ça, c'est d'avoir le choix. Donc si on veut désexualiser son corps, bah, qu'on le fasse, tout simplement.
La nudité ne veut pas dire forcément désérotiser le corps. Hein. Je veux dire, c'est simplement le neutraliser, effectivement, les effets qu'il peut produire. Mais après, on est libre de pouvoir désirer.
En tout cas, en faire un sujet de discussion. Je terminerai avec le message d'Yvette, qui est originaire du Cameroun, qui réagissait aux propos de notre auditrice sur le bandage des seins en Côte d'Ivoire. Et elle dit « Moi, je n'ai pas profité de ma poitrine. Ma mère a utilisé des spatules en bois. C'était très douloureux, donc pour aplatir les seins et bloquer la croissance, ce qui ne la bloque en rien. Mais les hommes m'ont dégoûté de mes seins à cause d'abus et d'attouchements. » Voilà. Merci en tout cas à vous tous pour vos très nombreux messages sur nos réseaux sociaux. Merci à vous Gala Avanzi. Vous publiez Nos bras, ce que ma poitrine dit de moi chez Flammarion. Merci à vous Bernard Andrieux, philosophe du corps. Demain, 7 milliards de voisins. On parlera de l'emploi des jeunes en Afrique. Est-ce que la formation technique peut être une réelle solution pour l'emploi des jeunes à l'occasion du sommet Afrique-France qui se tient à Montpellier? Bien sûr, vous pourrez poster tous vos messages, comme chaque jour, au 33 7 64 45 51 41. On se quitte avec La Grenade. Clara Luciani chez 7 milliards de voisins sur RFI. Ensuite, ce sera le journal. Qui se bat?
Et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
C'est fini pour aujourd'hui. Et bien sûr, un grand coup de chapeau à l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi aussi aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast. Dans quelques secondes, ce sera le journal sur RFI.
Édition spéciale.